Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour vous raconter le cinéma pendant une heure. Bienvenue dans Clap sur Europe 1. Et dans notre récit du jour, il sera question de zombies à l'occasion de la sortie de Peninsula mercredi prochain, où quelques rescapés doivent lutter contre une horde de zombies. On reviendra sur l'origine de ces créatures, où sont-elles nées, quand, pourquoi, que disent-elles aussi de notre société, et surtout comment le zombie est-il devenu une figure incontournable du cinéma, aussi bien à grand spectacle que du cinéma d'auteur. 14h30, les films de ma vie, c'est Karine Viard qui nous dira aujourd'hui quel est le premier film qu'elle a vu au cinéma, celui qui l'a fait le plus rire, le plus pleurer, son film honteux ou la bande originale qui a marqué sa vie. Et puis juste après, on débattra des films sortis en salle cette semaine au programme Drunk, Calamity et 30 jours max. Voilà pour le programme de Clap, votre émission cinéma, et tout de suite notre récit consacré à la figure du zombie au cinéma.
Europe 1. Le récit.
À l'origine, le zombie était bien loin de la figure du mort-vivant, cherchant à croquer son semblable. En fait, les premières traces de zombies datent des années 30 en Haïti, et c'est l'explorateur américain William Seabrook qui le raconte dans son livre « L'île magique ». Ces zombies étaient des hommes victimes d'un rituel vaudou. Un sorcier leur faisait par exemple boire un poison qui les rendait complètement hagards et dépendants, le plus souvent pour ensuite les soumettre à des travaux forcés. Ça ne vous rappelle rien ? C'est exactement ce que racontait le film de Bertrand Bonello, Zombie Child, sorti l'année dernière, à travers la voix d'une adolescente dans un chic pensionnat qui racontait à ses amis l'histoire de son ancêtre, ramené d'entre les morts pour travailler dans les plantations de canne à sucre.
J'ai rencontré une fille qui vient d'arriver. Elle s'appelle Mélissa. Elle est un peu spéciale, mais on aime les mêmes films d'horreur, les mêmes livres. Vous faites du vaudou, vous pouvez m'aider à vivre.
Il faut pas prendre ça à la légère.
À cette époque et jusqu'en 1934, Haïti, ancienne terre d'esclaves, est sous occupation américaine. C'est d'ailleurs sans doute pour cette raison que l'imaginaire américain va s'approprier et amplifier cette figure du zombie. Car si les spécialistes ont tendance à désigner George Romero comme le créateur des films de zombies, c'est oublié trop vite que dès 1932 est sorti White Zombies pour la version originale, Les Morts Vivants pour la version française. Le film raconte l'histoire de Neil et Madeleine, un couple d'Américains sur le point de se marier aux Antilles, mais leur hôte tombe amoureux de Madeleine et l'empoisonne grâce à l'aide d'un prêtre vaudou.
Madeleine, what's wrong? Madeleine.
En France, Jacques Tourneur reprendra cette histoire du rite vaudou dans le film éponyme, sorti en 1967. Mais très vite, le zombie va s'émanciper et devenir cet être cannibale, faisant le succès de BD, séries et films, et surtout racontant notre société malade. Et c'est là que revient notre George Romero. Je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas lui le père du zombie au cinéma, c'est vrai, mais c'est en revanche lui le père du zombie moderne, ce monstre cannibale qui se traîne difficilement. Son film La Nuit des Morts Vivants, sorti en 70, marque un tournant dans l'idée que le public se fait du zombie. Et puis surtout, pour la première fois, le zombie revêt une dimension politique. D'abord, son héros est noir, ce qui n'est pas anodin, alors que les droits civiques sont loin d'être acquis à ce moment-là aux États-Unis. Plus largement, toutes les peurs de l'Amérique en pleine guerre du Vietnam ressortent dans le film. Les morts vivants ne provoquent pas la terreur, mais plutôt un sentiment d'oppression. Le film est par ailleurs une métaphore de cette guerre au Vietnam, aussi bien dans le fond que dans la forme, Romero s'inspirant de l'esthétique des reportages alors diffusés à la télévision. Le réalisateur dira même « Le pays était dans la décadence et on essayait d'enjoliver ça par tous les moyens ». Il était important de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Le réalisateur poursuit sur sa lancée en 1978 avec L'Aube des Morts. Alors là, oui, les cervelles explosent et le sang gicle, mais cette fois, c'est la société de la surconsommation qui est visée, car des morts vivants ont envahi notre terre et quatre survivants se réfugient dans un centre commercial.
Peter, je crois que c'est le bon moment.
C'est gagé ?
Pas tout à fait, mais ils se sont un peu éparpillés. Je crois qu'avec le chariot, on passera.
J'arrive.
Les zombies eux-mêmes agissent en bande, en horde, comme cette société américaine obsédée par la consommation.
Et comment est-ce qu'on va faire pour remonter ?
On verra ça plus tard. Faisons d'abord notre marché. Alors.
Des montres ! Des montres !
Mais non, laisse tomber les montres. Prenons d'abord ce qui est indispensable. Tiens, une télé et un transistor.
Des briquets ! Des briquets ! Du chocolat !
Ah oui, ah oui, c'est bon le chocolat. Yeah.
Enfin, dans Zombie 3, l'armée et les médecins font face aux zombies avec d'un côté les militaires, qui expliquent qu'il faut tous les tuer, et les médecins, qu'il faut les éduquer. Mais au fait, pourquoi reviennent-ils sur Terre ? Bah, tout simplement parce qu'il n'y a plus de place en enfer. Puis viennent les années 80, les années Sida, et là encore, les cinéastes s'emparent du sujet à travers, notamment, la figure du zombie, qui se contamine alors par un virus contenu dans le sang, notamment dans Resident Evil, adapté d'un jeu vidéo à succès.
D'une manière ou d'une autre, notre monde touche à sa fin. La question est, allons-nous mourir avec lui ? Qu'est-ce qu'on va faire ?
On va les tuer jusqu'au dernier.
C'est à cette époque que le film de zombie devient un objet de divertissement. D'ailleurs, dorénavant, il y a autant de figures du zombie que de cinéastes qui s'emparent du sujet. Je vous parlais il y a quelques minutes de ces zombies se traînant difficilement. Chez Danny Boyle, dans 28 jours plus tard, ils marchent beaucoup plus rapidement.
La contamination se fait par le sang et la salive. Une seule mort tirée. Non ! Arrêtez ! Vous êtes inconscient ! Non !
Enlevez-moi ça ! Enlevez-moi !
Plus récemment encore, et dans un autre domaine, celui du cinéma d'animation, les zombies se mobilisent pour éviter la fermeture d'un parc d'attractions. Je parle bien sûr de Zombielennium, une revisite de la lutte des classes.
Maîtresse, est-ce que ça existe, les morts vivants ?
Bonjour à tous. Je vais trouver des investisseurs chez les humains. Vous avez 15 jours. Pour rendre ce parc le plus effrayant qui soit. Alors, faites peur ! Sinon, vous savez tous ce qui vous attend.
Qu'est-ce qui nous attend ?
On va tous en enfer.
On n'y est pas déjà ?
Les zombies pour enfants, donc. Un dernier exemple afin d'illustrer à quel point les zombies sont partout. Dans les séries télé aussi, avec la série The Walking Dead, elle-même adaptée d'une BD à succès. Dans la musique, enfin, avec Thriller de Michael Jackson. On l'entendra tout à l'heure. Entre 2014 et 2019, on comptabilise 55 films et séries autour de l'univers du zombie. Et puis, il est intéressant de noter que les zombies envahissent aussi bien les blockbusters que les films d'auteur. Les blockbusters avec, par exemple, World War Z, sorti en 2013, Brad Pitt y campe Jerry Lane, un ancien enquêteur de l'ONU qui se voit obligé de reprendre du service face à la menace d'un virus mortel, une pandémie qui contamine les hommes pour en faire des êtres prêts à exterminer le monde.
Vite, faut pas rester là.
La terre entière est touchée. Est-ce qu'il y a des pays qui font mieux que nous ?
On n'en sait rien.
2 500 000 spectateurs rien qu'en France. World War Z est le film de zombies le plus rentable de l'histoire. Voilà pour les blockbusters, mais le zombie, je vous le disais, s'attaque aussi aux films d'auteur. C'est ainsi qu'en 2019, un film de zombies fait l'ouverture du Festival de Cannes en compétition. Dead Don't Die, signé Jim Jarmusch.
Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante va arriver.
Excusez-moi, c'est fermé.
T'approche pas !
Qu'est-ce qui a fait ça ? Une bête sauvage ?
C'est épouvantable. Probablement la pire chose que j'ai vue.
C'était quoi, plusieurs bêtes sauvages ?
Alors, tu penses à quoi ?
Je pense à des zombies.
Et là encore, ce n'est pas juste une histoire de morts qui sortent de leur tombe pour se nourrir des vivants. Écoutez Jim Jarmusch parler de son film sur Europe 1.
Je pense que notre film parle du système dans lequel nous vivons, de la façon dont il nous exploite, un système qui nous mène à la faillite et qui est stupide. On parle aussi de ce qui nous semble être nos priorités. Ce qui est bien avec les zombies, c'est que vous pouvez parler de toutes ces choses tout en faisant un film drôle et sombre.
Récemment encore, Mati Diop, une jeune réalisatrice franco-sénégalaise, racontait dans Atlantique comment les candidats à l'immigration qui ont péri en mer reviennent hanter Dakar. Le film a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes. La grande question maintenant, c'est de savoir comment les cinéastes vont se servir des zombies pour raconter ce que nous vivons en ce moment, cette pandémie mondiale. On posera notamment cette question dans un instant à notre invité, Manouk Borzakian, qui est notamment l'auteur du livre « Géographie zombie, les ruines du capitalisme ». Mais je vous l'avais promis, on va d'abord écouter Thriller, signé Michael Jackson, dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1.
It's close to midnight
Et on parle des zombies aujourd'hui dans Clap sur Europe 1 à l'occasion de la sortie de Peninsula mercredi prochain. Pour poursuivre notre réflexion, j'accueille Manouk Borzakian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, critique de cinéma et surtout auteur du livre Géographie zombie, les ruines du capitalisme. C'est pour ça qu'on vous a invité. D'abord, est-ce qu'on peut vraiment dire que les zombies sont nés en Haïti et que ce sont les Marines américains qui ont ramené cette figure au pays avant que les arts s'en emparent ?
Y a deux manières de répondre, parce qu'effectivement, il y a un cinéma américain qui s'inspire des légendes haïtiennes vaudou. Il y a des films dans les années 30 en particulier, White Zombie qui date de 1932, puis un film de Tourneur en 43 qui s'appelle I Walked with a Zombie. Et jusque dans les années 80, donc cette légende est restée dans le cinéma américain. Mais on peut aussi considérer que ce que George Romero invente en 1968 dans La Nuit des Morts Vivants, c'est quand même complètement différent. C'est-à-dire qu'on a, vraiment un nouveau monstre, une nouvelle créature qui apparaît, qui ne s'inspire plus du tout de ce qu'essayait de faire passer la légende haïtienne, qui parlait d'esclavage, qui parlait de colonisation. Et là, on passe à quelque chose qui est beaucoup plus réflexif, qui parle beaucoup plus des États-Unis, puis de l'Occident, et les choses se passent, disons, à domicile, et plus du tout sur une île lointaine un peu exotique. Donc il y a quand même une rupture assez nette entre ces deux zombies, même si on peut imaginer qu'il y a quand même un lien.
Et pourquoi justement le zombie sert autant, à partir de Romero, à représenter un peu tous les affres de notre société, que ce soit de la surconsommation, que ce soit de l'immigration, si on pense à Atlantique récemment, enfin voilà, représenter tout ça?
Ben, je pense que le zombie a une qualité, en quelque sorte, c'est qu'il est, il est extrêmement plastique, il est extrêmement souple, on peut faire beaucoup de choses avec, puisque entre le zombie de Romero en 68 et puis le zombie de Danny Boyle en 2002, le premier est lent, décérébré, un peu, il fait pas très peur en fin de compte, sauf quand il est très nombreux, c'est ça le problème. Alors que celui de Danny Boyle en 2002 court à toute vitesse, est complètement enragé, et pourtant ça continue à fonctionner, mais ça fonctionne différemment. Et puis pareil dans World War Z, par exemple, qui propose une relecture encore du zombie. Donc manifestement, c'est un monstre qu'on arrive à transformer, à réutiliser pour mille choses différentes. Ce qui explique sans doute son succès et puis sa longévité surtout.
Et c'est aussi le zombie l'incarnation de la peur de l'autre, de l'inconnu, de l'étranger même, si on va plus large.
Oui, il y a toute une ambiguïté parce que le zombie c'est à la fois nous, puisque c'est souvent des gens familiers, des gens proches, hein, qu'on voit réapparaître à la fin du film ou au milieu du film. Mais de manière plus générale, effectivement, le zombie c'est plutôt une espèce d'autre radicalement différent. Enfin, c'est quelque chose de parfaitement inconnu, de parfaitement nouveau. Ça peut raconter l'angoisse des migrants, par exemple, hein, des vagues migratoires. Mais ça peut raconter plein d'autres inquiétudes. Plus ou moins intérieure à la société et de choses qu'on voit pas puis qui ressurgissent soudainement sous la forme des zombies ou qu'on voit pas ou qu'on n'a pas envie de voir d'ailleurs. Et voilà, donc il y a cette espèce d'altérité mais qui peut aussi être une altérité intérieure, interne à la société qui ressurgit.
Et pourquoi il n'y a pas de zombies gentils?
Alors, c'est une bonne question. Alors je vais vous contredire parce qu'il y en a quand même un qui est presque sympathique. Une série Z Nation avec un personnage qui est très intéressant parce qu'il est entre deux. C'est-à-dire qu'il est en train de se transformer, mais ça prend plusieurs épisodes. Et donc, on a un personnage qui finalement est le plus intéressant de la série, puisque c'est celui qui se rend compte qu'il est en train de devenir un zombie et qui se demande si c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Donc, il y a une espèce d'ambiguïté qui est assez nouvelle, je pense, dans l'univers du zombie. Et puis, chez Romero aussi, il y a des zombies avec des positions un peu ambiguës, qui reviennent pour se venger, donc qui sont à la fois inquiétants et pas forcément si antipathiques que ça. Après, pour répondre vraiment à votre question, je pense que les zombies sont méchants parce que c'est assez pratique d'avoir ce monstre qui nous rappelle les pires choses de l'humanité, hein, puisqu'il est mort, il revient, il est purulent, donc il nous rappelle vraiment les pires angoisses qu'on a sur la mort, sur le corps qui se décompose, etc. Donc ça, c'est quand même dur à rendre sympathique. Mais surtout, je pense que le zombie, dans l'imaginaire de beaucoup, il est très pratique pour faire un bouc émissaire et pour concentrer tout ce qu'on déteste ou tout ce qu'on a envie de détester. Donc voilà, à part quelques contre-exemples, ça me paraît assez cohérent que dans l'ensemble, il soit uniquement antipathique, dangereux, incompréhensible, etc.
Et il sert quand même beaucoup, que ce soit chez Romero ou plus récemment chez Jim Jarmusch, à représenter un peu aussi cette meute de que l'on peut former de la surconsommation ou de sur ces points-là, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que il raconte souvent la même chose, le zombie, quand même. C'est-à-dire une société de meute qui va dans un même sens, dans une même direction.
Alors, c'est très clair dans les premiers Romero. Vraiment, il y a une critique de la société de consommation et au sens de l'individu, enfin des masses en l'occurrence, d'individus abrutis qui pensent plus qu'à consommer et puis qui ont plus de cerveau, quoi, en quelque sorte. Et puis on retrouve ça encore récemment avec le dernier film de Jarmusch qui joue cette carte de manière, disons, parodique, mais n'empêche qu'il dit à peu près la même chose. Donc effectivement, il y a ça qui revient très très souvent, mais je pense quand même qu'il y a des évolutions. Il y a des évolutions parce que les angoisses de la société changent, parce que la critique de la société de consommation, c'est peut-être moins à la mode dans les années 2000 que dans les années 70-80. Et il me semble que ça raconte d'autres choses. Par exemple, le fait que Danny Boyle en 2002 décide de faire partir son film d'une maladie, d'une infection. Donc les zombies deviennent plutôt des malades très contagieux. Là, ça prend acte aussi de 20 ans d'inquiétude vis-à-vis de certaines épidémies, en particulier du sida. Je pense que par exemple dans World War Z, la critique de la société de consommation, elle a complètement disparu.
Et justement, vous en parliez, mais de ce virus qu'on retrouve souvent dans les films de zombies, évidemment, vu la période qu'on est en train de traverser avec le Covid, on se pose la question de ce que va devenir le zombie et on se dit qu'il va forcément y avoir des films qui vont raconter ça et ce qu'on est en train de traverser.
Alors, il va y en avoir, il y en a même déjà un que j'ai découvert un peu par hasard, qui est un film thaïlandais qui imagine il y a quelques années, hein, donc c'est assez étonnant, une épidémie de grippe venant d'Afrique et qui devient en fait une épidémie zombie. Donc l'imaginaire collectif avait déjà prévu ce qui nous arrive en quelque sorte. Après, je pense même qu'on peut aller plus loin parce qu'à mon avis, disons, il y avait déjà dans les films de zombies une forme d'anticipation de ce qu'on est en train de vivre. Et ça rejoint ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que les zombies, on peut un peu leur faire raconter ce qu'on veut. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est pas forcément les zombies en eux-mêmes, mais c'est ce que font les gens qui y sont confrontés. Et en l'occurrence, ce qui se passe face à l'épidémie de coronavirus ressemble beaucoup, alors évidemment en beaucoup moins spectaculaire et en beaucoup moins terrible, heureusement, mais ressemble beaucoup à la manière dont les sociétés réagissent aux épidémies zombies, les quarantaines, la peur de l'autre, la tendance à s'enfermer, etc. En fait, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le cinéma zombie en particulier, et puis peut-être même post-apocalyptique en général, depuis 30 ans.
Eh bien, merci beaucoup, Manouk Borzakian, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre. Alors, Géographie zombie, les ruines du capitalisme, c'est publié chez Playlist Society. Merci d'avoir été dans Clap avec nous sur Europe 1.
C'est moi qui vous remercie.
Et on se retrouve dans un tout petit instant pour les films de ma vie. C'est Karine Viard qui aujourd'hui va répondre à notre questionnaire de Proust version cinéma.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et on se retrouve pour la suite de Clap et les films de ma vie. Vous connaissez le principe désormais de cette séquence. Une personnalité qui répond à un questionnaire de Proust, mais version cinéma. Et c'est Karine Viard qui a accepté de se prêter au jeu aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Pas trop stressée ?
Tellement stressée par ce questionnaire.
C'est parti. Votre premier souvenir de cinéma ?
Mon premier souvenir de cinéma, c'est Le Bossu avec Jean Marais. J'étais élevée par mes grands-parents et vraiment, ils adoraient les films de KPDP. Moi, j'en étais pas fana, mais bon, voilà, du coup, je les voyais.
Allez, suivez-moi. Vous en imposturez des masqués, bossu. Remets ton âme à Dieu. Le bossu est mort. Et toi, à la femme meurtrier, puisque tu n'es pas venu à la Garvère, c'est la Garvère qui vient à toi. Allez, attaquez.
J'ai découvert les films des années 70-80 à l'adolescence avec une très bonne amie. Et j'ai été soulagée de me débarrasser des films de KPDP.
Pourquoi ?
Parce que c'était un peu... Ça ne m'intéressait pas tellement. Jean Marais ne m'intéressait pas tellement. Déjà, petite fille, voilà, je trouvais ça distrayant. Mais voilà, Le Bossu, Fanfan la Tulipe, tout ça, ça faisait partie de ma culture. Mais c'était... Je sentais que je n'avais pas la même adéquation que celle que j'ai rencontrée quand j'ai découvert des films à 14 ans. Quoi.
Votre meilleur souvenir en salle ?
Mon meilleur souvenir en salle, mais je suis allée avec ma grand-mère un jour, j'étais malade. Et puis elle vient me réveiller pour aller à l'école. Je lui dis « Oh mémé, je crois que je suis malade, puis je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. Ça te dirait pas qu'on aille au cinéma toutes les deux cet après-midi ? » Elle me dit « Ok, rendors-toi. » Et on est allé voir Tootsie. Et voilà, c'était l'école buissonnière avec ma grand-mère pour aller voir Tutsi. Et je dois dire que c'est un souvenir qui est vraiment très joyeux dans ma tête.
Je ne suis pas Emily Kimberly. Je ne le suis pas. Je suis Edward Kimberly, le courageux frère de ma sœur Antea.
Nom de Dieu.
C'est un travelot.
Je suis fier et heureux.
Ça, c'est le comble.
D'être suffisamment fort pour être la femme qui est le meilleur de l'homme que je suis. Et même le meilleur de moi. Pub, les enfants. Coupez.
Votre séance de cinéma la plus dingue, Karine Viard.
Séance de cinéma la plus dingue. Bah, je dirais, c'est à l'adolescence. J'ai... J'ai quand même vu trois fois avec trois gars différents Apocalypse Now. Et j'ai jamais réussi à voir le film parce que à l'adolescence, aller au cinéma, c'était l'occasion de se rouler des pelles pendant toute la séance. Donc je l'ai vu quand même trois fois avec trois gars différents sans jamais voir le film en entier. Voilà, je trouve que c'est assez dingue.
Est-ce que vous concluez toujours au même moment et à la même séquence?
Ah bah, deux minutes après après le début du film, ça commençait, ça s'arrêtait quand les lumières se rallument. C'est absurde, non?
Vous sentez cette odeur? Quoi? C'est le napalm, fils! J'adore respirer l'odeur du napalm le matin.
Je l'ai vu des années après à la télé parce que je n'ai jamais réussi à le voir au cinéma.
Le film que vous avez le plus vu, Karine Viard?
Je pense que c'est un de mes films préférés, le film de David Lynch qui s'appelle Elephant Man.
Pourquoi?
Mais parce que c'est un film qui me bouleverse, qui me ravage, qui me plaît. J'aime l'esthétique du film, j'aime ce que ça raconte. J'aime, encore aujourd'hui, ça me... Je sais pas, j'ai une proximité avec ce film incroyable.
Que le rideau se lève. Regardez, mes amis, l'homme éléphant.
Oh, il est beau, notre Don Juan, non?
Le film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer.
Il n'y a aucun film que j'aime que j'ai honte d'aimer. Franchement, j'assume d'aimer les trucs... Alors, c'est pas des trucs à l'eau de rose, ce serait plutôt les grosses potacheries américaines... Les rois du patin, Get Him to the Greek.
Bienvenue dans le monde du patinage artistique.
Le premier couple masculin de l'histoire de ce sport. Comment ça peut fonctionner?
L'air tempeste, l'after chef et le Tex-Mex.
Ouais, toujours.
Volcan.
Tous ces trucs-là, j'adore. Mais j'ai pas du tout honte d'aimer. Au contraire, je les recommande chaleureusement.
Le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami?
Oh, bah, j'aurais une petite liste. Hein. J'aurais une petite liste. Par exemple, là, ce qui me vient comme ça, La Chasse, Royal Affair, Get Him to the Greek, évidemment, Fanny et Alexandre, un truc brésilien. Et bah, voilà. Ce que je conseillerais avant toute chose, c'est Faute d'amour. C'est un film sublime, extrêmement...
Vous êtes Guinsef ?
Ouais, extrêmement... violent.
L'école vient d'appeler. Il n'y est pas allé, ni hier, ni aujourd'hui.
Je comprends pas.
Qu'il n'est pas allé à l'école hier et aujourd'hui, tu piges rien ou quoi?
Et il est passé à la maison.
Aucune idée. Oh merde.
T'énerve pas, il va forcément rentrer.
Une violence rentrée et sourde, mais ce film m'a tellement plu. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre.
Restez bien en ligne. On avance.
On a un, on s'arrête, la nuit tombe. On remballe.
Et le film que vous conseilleriez à votre pire ennemi?
Ah, mon pire ennemi, je crois que je lui conseillerais The Pillow Book de Peter Greenaway, qui dure 4h50, qui est incompréhensible. Les acteurs jouent tous plus mal les uns que les autres. Ça, j'ai détesté ce film. Et je l'ai vu jusqu'au bout. Et moi, personnellement, c'est un des pires cauchemars de ma vie d'avoir vu ce film. Pourtant, j'aime Peter Greenaway. Attention, hein. J'ai vu des films que j'ai adorés de lui, Le ventre de l'architecte et tout. Mais là, The Pillow Book, oublie-moi, jeune.
Et pour finir, Karine Viard, la bande originale qui a le plus marqué votre vie?
Ah, moi, j'aime toutes les bandes originales de Tarantino. Je trouve qu'il est arrivé dans le cinéma justement en ayant des BO tellement... tellement intéressante, tellement chouette. Je trouve qu'il a été un peu, pour moi, peut-être, je ne sais pas, mais un peu précurseur de la bonne BO avec un très bon groove. Et voilà, ça, quand il est arrivé avec son premier film, là, comment, Reservoir Dogs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une musique à jeter, quoi. Et moi, j'aime toutes les BO de Tarantino.
Il faut m'en choisir une pour qu'on l'écoute.
Eh bien, c'est bien, là... Le film avec la noire là qui est hôtesse de l'air.
Vous parlez de Jackie Brown ?
Bah voilà, c'est la scène d'ouverture.
Ah bah alors on écoute un extrait de la musique du film Jackie Brown dans Clap sur Europe 1.
14h-15h sur Europe 1, Clap.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you're put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to y'all about right now. There's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it all.
Bobby Womack, extrait du film Jackie Brown de Quentin Tarantino. Merci beaucoup Karine Viard d'avoir répondu à ce questionnaire des films de ma vie. Et nous on se retrouve dans quelques instants avec mes collègues critiques pour débattre des films sortis en salle mercredi dernier. On parlera de Drunk, de Calamity et de 30 jours max.
14h-15h sur Europe 1, Clap. Mathieu Charrier.
Et on se retrouve donc pour la dernière partie de Clap. On va débattre des films sortis en salle mercredi dernier, tant que les cinémas restent ouverts. Alors, autour de la table aujourd'hui, j'accueille Marilyn Letertre de Madame Figaro. Bonjour Marilyn.
Bonjour Mathieu.
Et Thierry Chaise du magazine Première. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, bonjour Marilyn.
Alors, au programme, les amis, on va parler de Drunk, au titre assez transparent d'ailleurs. On va parler du film d'animation Calamity, sur l'enfance de Calamity Jane. Et puis de 30 jours max, vous avez sans doute vu l'affiche, la nouvelle comédie signée Tarek Boudali de la bande de Philippe Lachaud. On commence donc avec Drunk.
afhældning. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. Tilstræbt konstant niveau på en halv promille.
Mads Mikkelsen joue donc Martin. C'est un professeur d'histoire un peu austère, mal aimé de ses élèves, voire un peu chahuté parfois. Bref, vous savez, ces hommes qui subissent la vie. Et avec trois de ses copains, ils vont donc avoir une idée, appliquer la théorie d'un psychologue norvégien qui s'appelle Finn Skårderud, selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. C'est une vraie théorie. Hein. Et donc ils se disent, on va compenser ce déficit, de façon assez scientifique d'ailleurs. Ils picolent, mesurent leur taux d'alcoolémie. Ça les désinhibe, ils sont plus entreprenants, plus créatifs. La femme de Martine retrouve le désir, l'admiration des débuts, sauf qu'évidemment... Au fil des jours, eh bien, le corps s'habitue, il faut boire de plus en plus. Alors depuis Festen, Thomas Vinterberg aime bien nous décortiquer, aller voir un peu ce qu'il y a sous notre carapace. Est-ce que ce nouveau film vous a enivré ?
Troublant.
C'est bien mené. J'adore Matt Mikkelsen.
Formidable Matt Mikkelsen.
C'est le personnage principal en fait qui fait tout. Il est très charismatique.
Ce qui m'a marqué, c'est les musiques. Elles étaient hyper bien dans le film.
La morale est pas trop évidente. J'avais un peu peur que ce soit juste un film pour dire qu'il faut pas boire. Et je trouve que c'est un peu plus ambigu que ça, donc ça m'a plu.
J'ai trouvé ça peut-être un peu long, mais ça m'a intéressé.
Il n'y a pas de jugement, c'est pas contre l'alcool, c'est une façon de célébrer un mode de vie. On en ressort un peu retourné.
Vinterberg n'est pas très optimiste sur l'humanité.
Oui, c'est extraordinaire, c'est une aventure avec l'alcool, sans l'alcool et avec la vie.
Ah, mais je suis content qu'il y ait cette dame à la fin, parce que j'ai trouvé un peu mitigé nos spectateurs. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Marilyn, Drunk, vous en avez pensé quoi ?
Moi, j'ai trouvé ça brillant. Il y a un spectateur qui disait qu'il n'y avait pas de jugement. Et justement, c'est ça la grande force du film. C'est qu'il n'est pas du tout moralisateur. C'est qu'à la fois, il filme l'alcool comme étant quelque chose d'euphorisant, de désinhibant, qui va aider les quatre personnages qui sont tous un peu empêchés, un peu étriqués dans leur vie. Ils ont tous un vrai malaise, un vrai mal-être. Et grâce à l'alcool, évidemment... Tout ça, tous les verrous vont sauter, mais évidemment, on sait aussi quel est l'effet de l'alcool, il est destructeur. Donc ça va aller jusqu'à quel point, justement, on peut boire juste pour se donner un petit kick. Mais voilà, et en fait, ça, c'est très brillant. Donc le film, il est plein de choses à la fois. Il est malaisant par moments, en même temps, il est très jouissif, il est amusant aussi. Et surtout, en fait, il est porté par quatre acteurs formidables, au-dessus desquels clairement se place Mads Mikkelsen. Le film a été labellisé Cannes. On ne voit pas comment, s'il y avait eu un vrai festival, le prix d'interprétation aurait pu lui échapper. Il est brillant.
Avec une scène finale qu'on ne révélera pas, mais d'une poésie folle. Drunk, Thierry Chaise.
Je trouve ça formidable parce que c'est compliqué. A priori, c'est le film programmatique par excellence. C'est-à-dire qu'on voit bien, ça va bien aller, puis après ça va mal aller. On a l'impression de l'avoir vu avant de commencer. Mais Vinterberg, ce qui n'est pas toujours le cas, arrive là à rester sur sa ligne de crête, qui est pour moi un geste absolument dingue, surtout sur 1h55. Il y a alors, ça vient, je pense, beaucoup des acteurs, ça vient aussi du regard de Vinterberg qui a cette chose totalement amorale, je dirais, à son meilleur, et on est embarqué, c'est-à-dire qu'on se marre, qu'on est bouleversé par moments, et Dame disait, c'est un peu trop long, ça je peux l'entendre, sauf qu'il y a une déflagration finale qui est dingue. Moi, j'arrive vraiment, c'est un miracle pour moi d'arriver à tenir cette ligne de crête. C'est un très bon film qui a très bien démarré en plus, donc c'est vraiment mérité.
Voilà, vous l'aurez compris, on vous conseille sans réserve le film Drunk, signé Thomas Vinterberg. Clap. Deuxième film dont on parle aujourd'hui, cette fois c'est un film d'animation, alors que commencent les vacances de la Toussaint. Ça s'appelle Calamity.
Allez, hey, hey, hop, hop,
qui va conduire le chariot?
Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux apprendre.
Ne raconte pas d'âneries, jeune fille.
Vous employez des filles maintenant?
Ouais, et celle-ci est très efficace. Aussi efficace que mal élevée.
On m'appelle Calamity. Calamity Jane.
Alors, sous-texte de ce film, comment une jeune femme va devenir Calamity Jane? Ça commence en 1863, on est évidemment dans le Grand Ouest américain. Vous avez un convoi de carriole qui avance et le père de Martha Jane qui se blesse. Elle doit donc prendre les rênes de la voiture familiale et surtout tenir tête à tous les autres meneurs de groupe, des hommes évidemment. Elle va abandonner sa robe pour un pantalon, c'est bien plus pratique pour faire du cheval, ça va quand même créer un peu de polémique. Jusqu'au jour où elle dérange tellement qu'on l'accuse de vol et elle va devoir fuir. Voilà. C'est une phrase un peu toute faite, mais c'est vraiment un récit d'émancipation, ce Calamity, magnifiquement dessiné, une histoire féministe que vous pouvez aller voir avec vos enfants même jeune. Mais est-ce que ça leur plaît à ces enfants? Marjorie Adelson est allée à la rencontre.
C'était bien. J'ai adoré. L'histoire était triste. Parce que quand même, la fille, elle n'avait pas sa mère.
C'est une merveille d'animation. Les couleurs, c'est des tableaux.
J'ai bien aimé. Il n'y a rien qui m'a fait triste.
J'ai trouvé le scénario plein d'inventivité.
Je ne pensais pas être le public. Finalement, j'ai de plus en plus aimé. Et j'ai beaucoup aimé la musique aussi.
Le monsieur, il est tombé dans la boue.
C'était un méchant?
Oui.
Et ça t'a fait rire?
Non.
C'est vrai qu'on se laisse beaucoup porter par les aventures de Calamity Jane. C'est son enfance, donc c'est marrant comme il l'a imaginé.
Quand elle est allée dans la forêt, on croyait un chien et c'était un énorme. Et en plus, eh ben, il était plein de sang. Il y a beaucoup d'aventures.
T'aimerais bien être comme elle?
Pas trop, parce que j'aime pas trop monter sur les chevaux.
Voilà, c'est tout mignon. Et il faut bien le dire, des enfants séduits par Calamity. Thierry Chaise, votre âme d'enfant a été emportée?
Mais oui, moi j'ai une pensée pour les parents qui vont devoir se taper les Trolls 2. Je me dis heureusement, il y a Calamity qui en effet...
C'est deux styles très différents.
Oui, oui, mais ça fait moins mal aux oreilles déjà Calamity. Non, mais c'est absolument formidable parce que c'est cette capacité en effet à s'adresser à tous les publics sans faire un film qui cherche à tout prix à ça. Un, sur le scénario, la manière de parler du genre... sans faire une leçon de choses, d'histoire surlignée, on est emporté par les péripéties qu'il y a. La beauté, mais vraiment, vous l'avez dit, mais de ces images, les couleurs, enfin Rémi Chaillet... Ouais,
c'est lui qui a, on retrouve un peu le dessin d'antan presque, très moderne, mais avec ce grain qu'on aimait...
C'est exactement ce mélange-là qui, a priori, là encore, est impossible et qui fonctionne. Ça a eu le Grand Prix au Festival d'Annecy. Ouais, moi, je trouve ça vraiment de nouveau Rémi Chaillet, qui avait fait Tout en haut du monde, qui était déjà très beau. Je trouve que c'est encore plus beau, encore plus emballant. Et en effet, qu'on ait 7 ou 77 ans, ou au milieu, bon, on se régale.
Vous êtes au milieu ou plutôt de l'un ou plutôt de l'autre?
Je vous remercie j'ai peur d'être plutôt d'autre.
Calamity, Marlène Leterre, votre cœur de pierre a-t-il saigné?
Mon cœur a saigné. Ah, oui, c'est assez rare.
On a réussi.
Non, j'ai trouvé ça effectivement à la fois très moderne, avec la caractérisation de cette petite héroïne qui est évidemment à l'avant-garde, puisqu'elle porte des pantalons, elle monte à cheval, elle a un esprit libre, vif, aventureux. Ce qui, effectivement, est un contraste énorme avec le traité graphique qui, lui, est beaucoup plus traditionnel. Traditionnel et en même temps, la palette est très vive, très colorée, à l'image de cette héroïne, donc qui a un tempérament, elle aussi, très, très vif. Je note aussi la musique dont parlait un spectateur, musique qui était composée par Florencia Di Concilio. C'est important de noter que c'est une femme derrière cette musique, à la fois symphonique et bluegrass, car les femmes ne représentent qu'un à 2% des compositeurs de musique de film. Et Rémi Chaillet l'a justement choisi, en pleine conscience de ça, pour les mettre en avant. Et là aussi, la musique nous emporte, telle Calamity, telle la palette graphique. On a adoré ce film.
Calamity, à partir de quel âge? On peut y aller jeune, hein, 5, 6 ans, 6, 7 ans?
Oh, 7 ans, je dirais.
7 ans, oui. Allez, voilà, 7 ans pour les vacances. Calamity, c'est à voir en famille.
Clap.
Et puis pour finir, on parle du nouveau film de la bande à Fifi. Ça s'appelle 30 jours max.
Il vous reste très peu de temps à vivre.
Très peu de temps, c'est-à-dire
30 jours. Max. Bien, ça nous fera 35 euros, s'il vous plaît.
30 jours max, signé Tarek Boudali, qui avait fait le controversé « Épouse-moi mon pote » et qui revient donc. Alors, il joue aussi le rôle principal. Ryan, c'est un jeune policier complètement incompétent, alors que son père, lui, était un grand flic. C'est pour ça d'ailleurs que le commissaire le conserve dans ses effectifs. Sauf qu'un jour, Ryan se fait mordre par un rat. Et oui, ça arrive. Et le médecin lui annonce, par erreur d'ailleurs, qu'il ne lui reste que 30 jours à vivre. Le petit craintif se transforme alors en super flic qui n'a peur de rien et qui va affronter un baron de la drogue incarné par José Garcia. Est-ce que ça vous a fait rire?
Très très bien, on a beaucoup rigolé.
Sympathique, marrant.
Je trouve ça un peu débile.
Pas très recherché, les blagues, on les voit arriver. Goût de cliché.
C'est mon genre, un peu lourd, un peu... Ouais, troisième degré, j'aime bien.
Il y avait des bonnes vannes en fait, c'était un peu une suite de différentes vannes.
C'est divertissant, ça remplit son rôle. On n'a pas besoin de penser à grand chose, mais on se marre bien.
C'est exactement ce qu'on attendait de Tarek Boudali. Beaucoup de gags, beaucoup d'autodérision.
L'équipe Fifi au taquet, Tarek Boudali.
J'aime bien cette équipe-là, la bande de Fifi.
Non, il y a de l'action, il y a pas mal de rebondissements.
C'est un bon film pour les jeunes et j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé.
Et bien voilà, un public plutôt emballé, contrairement à la presse, même si toute la presse n'a pas eu le droit de le voir, mais celle qui a eu le droit de le voir, a moyennement aimé. C'est assez classique d'ailleurs sur ce genre de comédie. Marilyn, je vous passe le ballon. 30 jours max.
Alors, je commencerai par dire qu'il y a un net progrès par rapport effectivement au controversé « Épouse-moi mon pote », puisque cette fois, on nous épargne quand même les vannes homophobes qui étaient omniprésentes dans le précédent film. Donc ça, c'est déjà un progrès. Après, j'ai envie de vous dire, suis-je le public ? Je n'en suis pas certaine. Cela dit, les ados auxquels ça va s'adresser majoritairement devraient, une fois de plus, apprécier l'humour extrêmement régressif, pour ne pas dire pipi caca, de la bande à Fifi. Voilà, c'est un peu couillon, mais c'est bourré d'action, ça va vite. Bon, après, la mise en scène n'est pas hyper inspirée, c'est sûr, mais ça fait à peu près le taf. Il a essayé de marquer le coup en choisissant une jeune femme comme le complément de son tandem. Alors ça, c'est une bonne chose, effectivement. Bon, le problème, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher de la mettre en petite tenue à la fin du film. Mais bon, voilà, bon, y a un petit progrès et ça s'adresse aux ados. Les ados, ils vont sûrement prendre un petit kiff.
Bon, voilà, même si, il faut le préciser, moi, je trouve qu'à force de voir les films de la bande à Fifi, dont j'ai pu être client, en tout cas, qui ont pu me faire sourire, c'est vrai que là, on voit vraiment les vannes arriver 5 secondes avant qu'elle n'arrive, moi, c'est ce qui me gêne un petit peu. Thierry Chaise, 30 jours max.
C'est bien parce que les warnings sont vraiment... Alors attention, la blague arrive, la blague... Et la suivante, la blague est finie. Non, moi, je suis assez triste parce que quand on voit le succès qu'ils ont, le pouvoir qu'ils ont, de ne pas essayer de renverser un peu la table, de faire autre chose, de faire... Moi, ça me rappelle la bande de Michael Youn. À un moment, il est allé faire Fatal. Ça a peut-être moins bien marché, mais il en a fait quelque chose. Là, c'est des copier-coller. Alors, si je veux de l'action, je préfère avoir Taxi 5. Voilà. Et surtout, moi, pourquoi pas ? Moi, je suis fan de Judd Apatow. Donc, je ne peux pas dire que l'humour régressif, sauf qu'il faut que ce soit bien joué. Et moi, j'ai un vrai problème de jeu général. Et ça se voit lorsque, d'un seul coup, ils sont face à un Nicolas Marié, l'acteur habituel du Pontel, qui ne fait rien. Et j'ai l'impression que c'est Nadal face à moi, tennisman. C'est-à-dire qu'il y a un... Et cet humour-là ne supporte pas un jeu moyen, médiocre. Et là, je pense qu'il y a tout. Alors, sans doute, ça va atteindre son objectif. Je trouve dommage que des gens qui ont un tel pouvoir se contentent de ça. C'est tout.
Bon, ben voilà, ce sera billet pour l'hiver. 30 jours max, on a aussi parlé de Drunk et de Calamity. Je voulais aussi vous dire un petit mot très rapide sur mon premier festival qui débute dans quelques jours à Paris. C'est un des festivals de cinéma à destination des enfants. Donc, je n'irai pas plus loin, mais tapez mon premier festival si vous êtes intéressé sur Google. Et c'est des très bonnes idées de sortie. Merci beaucoup Marilyn Letertre, Madame Figaro, Thierry Chaise, première. Et on encourage les gens, tant qu'ils le peuvent, à aller au cinéma, aux horaires où ils ont le droit d'y aller. Mais profitons-en, il y a une vraie belle offre de films. On vous a parlé de Drunk, on vous a parlé de Calamity. Il y a Albert Dupontel qui est censé arriver bientôt. Donc voilà, allez voir ces films et encouragez le cinéma. Merci beaucoup à Nicolas Baudin qui réalise ce clap, Marjorie Adelson qui le prépare et qui va vous voir à la sortie des salles. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, 14h, 15h sur Europe 1 pour un nouveau numéro de Clap. Très bonne journée à tous. Europe 1.